Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue dans ce magazine de Vivante Église au programme. Eh bien, c'est un beau cadeau aujourd'hui. Dans ce plateau, nous avons autour de cette table 6 adolescents, élèves de 5e, 4e, 3e et 2e. C'est un peu l'univers des adolescents et surtout des adolescents qui témoignent aujourd'hui dans ce Vivante Église. Ils sont accompagnés d'Evelyne Delavergne, qui est responsable et en charge des adolescents sur le diocèse de Toulouse et en mission sur le diocèse de Toulouse auprès des adolescents depuis 7 ans. On se retrouve tout de suite. Alors oui, bienvenue à vous tous, chers adolescents. Bienvenue à vous, Evelyne Delavergne. Est-ce que, en introduction, dans ces deux premières minutes, vous pouvez un peu nous présenter ces jeunes que vous avez amenés ici, dans les studios de notre radio?
Bien sûr. Bonjour Nathalie, bonjour les auditeurs. Donc voilà, nous avons Maxime qui est en classe de 3e et qui fait partie de l'aumônerie de l'ensemble paroissial de la Sodrune. Philippine en classe de 5e et qui fait partie de l'aumônerie cathédrale. Donc avec Constance, son animatrice. Hein, voilà. Nous avons Aliénor qui fait partie de la paroisse Saint-Exupère hein, de Toulouse et qui est en classe de 4e. Nous avons Pauline en classe de 2e qui est à la fois au lycée catholique Sainte-Marie et aussi à l'aumônerie paroissiale de Saint-Orens-de-Gameville. Nous avons Gabriel en classe de 2e qui fait partie de la paroisse Saint-Exupère et qui est également scout. Et puis Victor qui fait partie du lycée du Caouzou. Voilà, et qui est en classe de 2e également.
Alors, merci pour cette présentation. Vous les connaissez mieux que moi, bien sûr, ces adolescents, puisque vous avez aussi, on en parlera dans ce Vivante Église et dans la deuxième partie de cette émission, vous les avez amenés en pèlerinage. C'était aussi un beau cadeau, un événement aussi spirituel important pour chacun, mais on en parlera un peu plus tard. C'était un pèlerinage à Rome et aussi sur les pas de Saint François d'Assise, Sainte Claire d'Assise et du bienheureux Carlo Acutis. Alors, tout de suite, sans plus tarder, eh bien, dans ce Vivante Église aujourd'hui, ce sont des adolescents qui vont donner un témoignage et une expérience de foi. Et je me tourne sans plus tarder en numéro 1. On commence et on débute avec Pauline. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Alors on s'était rencontrés il y a 2 ans.
Oui, tout à fait.
Vous étiez venue sur l'antenne de notre radio pour ce grand pèlerinage qui a lieu tous les 2 ans à Lourdes, le pèlerinage à Quéro.
Tout à fait.
Alors, quelle est un petit peu votre histoire de vie et surtout votre engagement chrétien en tant qu'adolescente, Pauline? Un témoignage à partager à l'antenne?
Alors, je vous remercie beaucoup de me donner la parole. Donc oui, en effet, je pense que c'est important pour... déjà, merci de laisser parler donc, les adolescentes du diocèse, parce que je pense que c'est important de recevoir un témoignage donc, de jeunesse. Donc moi, personnellement, j'ai vécu une réelle conversion. En étant toujours donc, dans la foi chrétienne et catholique, en fait, j'ai été baptisée très tôt, donc vers 4 ou 5 mois. Et donc j'ai toujours grandi dans une famille donc très proche de l'église. Mon père anime régulièrement les messes, toujours autour de la musique. Ma maman aime beaucoup chanter. J'ai été élevée dans les chants chrétiens, dans les chants de Thésée, notamment dans les Ave Maria. Et ça a toujours été important pour moi. Surtout la foi, c'est une expérience d'art et de beauté. Et par contre, je pense que justement, voilà, il y a cette partie-là donc très familiale. Qui est assez rassurante au niveau de la foi. Donc on a une foi qui grandit avec l'expérience parentale et une expérience un peu lourde. Ma famille a été touchée par la drogue pendant un long moment et ça a marqué un grand tournant dans ma vie. Donc en fait j'ai complètement abandonné l'idée de quoi que ce, du culte catholique, de la pratique de la foi. Et donc en fait je pense que, et ça c'est important peut-être pour les parents de l'entendre et pour les jeunes de l'entendre aussi et d'autres jeunes, il y a beaucoup de jeunes chrétiens qui sont en proie au péché, à la souffrance aussi, à la solitude et à beaucoup de choses qui pèsent sur la jeunesse chrétienne aujourd'hui. Et je pense que les baptêmes sont beaucoup en lien avec ça. Personnellement, voilà, j'ai été donc enfermée dans de nombreux péchés, de nombreuses souffrances. Et aujourd'hui, en fait, j'en parle pas tant parce que, en fait, j'ai vécu une conversion qui m'a amenée à devenir une toute autre personne. En fait, dans le Nouveau Testament, une lettre de Paul déclare que le Seigneur fait de votre cœur de pierre un cœur de chair. Et en fait, malgré le fait que j'ai été baptisée très jeune, après avoir été en proie au péché et avoir vraiment renié ma foi, j'étais presque athée, j'avais cette lumière en moi, mais qui brillait plus, qui était plus du tout active dans mon âme. Et en fait, le Seigneur m'a fait grâce d'un événement qui a marqué ma vie. Et donc, je considère que j'ai vécu vraiment... en plus, c'était sous le signe, sous un signe assez, on dirait hydraulique. L'eau, en fait, a fait partie de cet événement. Et en fait, je pense que l'eau, symbole donc du baptême, symbole de la libération, de la purification, et donc, de mon année de 5e à mon année de 4e, j'ai vécu la conversion totale. Donc je me suis mise à aller à la messe tous les dimanches, à prier mon chapelet toutes les semaines. J'ai pardonné. Je pense que c'est important pour les jeunes, en fait, de se pardonner d'abord pour le péché, pour la culpabilité, puis ensuite de pardonner ceux qui nous ont blessés, ceux qui nous ont fait du mal. Donc voilà, une vraie réconciliation. Et je considère que j'ai vécu un second baptême. Et je pense que c'est important aujourd'hui, avec toutes les conversions qu'il y a, de réaliser aussi que le baptême se fait dans le cœur et que c'est un événement qui est marqué, qui a une trace, qui a un impact clair, parce que c'est un événement pour un nouveau baptisé. Mais le baptême, ça se renouvelle. Chaque dimanche, chaque seconde, chaque jour de la vie, on peut être marqué par l'eau du baptême. Et aujourd'hui, je vis pleinement de la foi. Et je pense que c'est pas fini et je suis très heureuse ainsi.
Alors merci infiniment, je m'attendais pas à un tel témoignage aussi puissant. J'en profite, après un tel témoignage, vous êtes écoutés aujourd'hui dans ce Vivante Église, vous tous adolescents ici présents. Je rappelle que c'est une année jubilaire, l'année du jubilé de l'espérance, avec 7000 baptêmes d'adolescents sur toute la France, et vous faites partie de ces jeunes adolescents. Qu'aimeriez-vous dire aux parents et grands-parents qui vous écoutent après un tel témoignage, Pauline ?
Je pense que ce que j'aimerais dire aux parents et aux grands-parents, et ce que j'ai moi-même partagé avec mes propres parents, c'est vraiment que l'adolescence aujourd'hui, elle est marquée par des enjeux très importants. Et les adolescents chrétiens, ils doivent se battre constamment. Pour pas être en proie au péché, pour pas être en proie à la tentation, pour pas... Et donc, en fait, je pense que ce que je dirais aux parents, c'est de faire confiance aux enfants. Parce que quand un enfant a réellement cette envie, ce besoin dans son cœur, dans son âme de se convertir, d'avoir recours au baptême, c'est vraiment un geste qui est très courageux, très fort, très puissant. Et j'encourage vraiment les parents et les grands-parents à vivre une foi... réellement faite d'amour et de réalisation de cette conversion.
Alors merci infiniment, Pauline. Merci, vous étiez le numéro 1, voilà. En numéro 2, voilà, parce qu'on donnait numéro 1 aujourd'hui dans ce Vivante Église, ce spécial adolescent, des adolescents aussi qui témoignent. Nous les entendons peu sur nos radios chrétiennes, et il est temps aujourd'hui de leur laisser la parole, ce que nous faisons aujourd'hui dans ce Vivante Église du jour. Je me tourne vers Victor, donc vous êtes élève en classe de seconde, vous avez plein de choses aussi à partager dans le cadre du témoignage. Vous m'avez parlé aussi d'un ami qui vous est très proche, qui se prénomme Antonio. Qu'est-ce qui se passe pour cet ami très proche ? Et merci.
Merci beaucoup de me donner la parole. Tout à fait, j'ai un ami très proche qui se nomme Antonio et qui est de base athée, sa famille est athée, et depuis certains temps s'est tourné vers l'Église et vers la foi chrétienne. Il a eu ce déclic qui l'a mené à aller à la messe tous les dimanches, à prier quotidiennement, à apporter une Bible avec lui et de vivre pleinement l'amour de Jésus. Et également, j'ai un autre ami qui est venu avec nous à ce pèlerinage. qui se nomme Baptiste, qui a été baptisé il n'y a pas très longtemps, qui commence une vie de chrétien
qui commence une vie de chrétien,
effectivement.
Ouais, tout à fait. Alors, vous avez aussi dans votre histoire vécu, puisqu'on on va parler aussi de ce pèlerinage dans la deuxième partie de cette émission, vous avez vécu il y a quelques mois le pèlerinage, qui est un grand pèlerinage qui a lieu tous les ans à Lourdes, pèlerinage national Lourdes Cancer Espérance. Vous êtes partie avec votre maman et vous avez pleinement participé en tant qu'adolescent. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez vécu ?
Effectivement, je suis partie donc en septembre au pèlerinage de Lourdes avec l'association Lourdes Cancer Espérance sur la section adolescent, car mon père est décédé en juin dernier à la suite d'un cancer. Et ma mère, très croyante et voulant apporter son aide à cette association, m'a proposé de venir à ce beau pèlerinage, dont j'ai accepté et voulu découvrir ses fonctionnements et tout cela. Et donc, pendant 4 jours, nous avons vécu à Lourdes, nous avons vécu de nombreuses messes et moments de partage avec les adolescents et prêtres de diocèse de Toulouse et d'autres endroits.
Et qu'est-ce qui a été important pour vous, précisément, Victor, pendant ces 4 jours de pèlerinage ? Et puis, on peut noter aussi que vous avez vécu la perte aussi et la mort de votre papa en juin dernier et que vous participez à ce pèlerinage lors de Cancer Espérance. Alors, on y participe comment quand on a perdu son papa alors que vous êtes encore jeune et adolescent ?
On y participe comme notre adolescent, tout d'abord comme chrétien et comme porteur de la parole de Jésus. Et finalement, ça ne change pas grand-chose, mis à part que la foi, personnellement, est plus présente et que nous croyons à la vie après la mort. Donc finalement, ça ne change pas grand-chose.
Donc l'espérance est là.
L'espérance est là, effectivement.
Ah, oui, merci, Victor. On part du côté de chez Gabriel. On fait des pèlerinages. Hein. On parle beaucoup de lieux de pèlerinage, de lieux mariaux aussi. Gabriel, vous avez vécu aussi une expérience qui a un peu bouleversé votre itinéraire, on peut parler spirituel, votre jeune parcours de chrétien, c'était à Notre-Dame-du-Lot, racontez-nous.
C'est ça, donc ce festival marial à Notre-Dame-du-Lot dans les Alpes, il dure 5 jours et au 3e jour, je me suis senti appelé vers l'oratoire, donc l'endroit où le Saint-Sacrement est exposé. Et cet oratoire, il a la particularité... La présence de Jésus est infinie. Il est exposé depuis que le Saint-Sacrement est exposé depuis qu'on l'y a mis. Donc la présence de Jésus est infinie. Donc je me suis senti appelé vers cet endroit et j'ai décidé d'y aller pour prier. Et c'est là que j'ai eu mon déclic de foi, entre guillemets. Et depuis cet événement, enfin, depuis cet après-midi à l'oratoire que j'ai passé en sentant la présence de Jésus, je vis ma foi différemment qu'avant. Je vais à la messe, pas pour suivre mes parents, mais pour voir Jésus, pour communier, voilà.
Aujourd'hui, c'est de votre plein gré, de votre propre initiative, c'est ce qu'on peut entendre.
Exactement,
c'est ça. Il y a eu un changement avant-après.
Oui.
Avant, on suivait papa et maman, et aujourd'hui, on n'a plus besoin de papa et maman.
Oui, voilà, c'est un chrétien confirmé qui vous le dit.
Conversion et puis confirmation, je crois.
J'avais déjà les sacrements avant de venir à Notre-Dame-du-Lot, mais je ne vivais pas comme un chrétien doit les vivre. Je croyais presque plus en Jésus. Et grâce à ce déclic, j'ai décidé de m'en confirmer. Et je me suis rendu compte de la chance qu'on avait, nous chrétiens, de pouvoir communier tous les dimanches.
Et ça représentait quoi ? Et ça représente quoi, ce sacrement qui est important pour les chrétiens, ce sacrement de la confirmation ?
C'est devenir majeur dans la foi. C'est mieux connaître Jésus et devenir témoin dans le monde qui nous entoure.
Merci à tous les trois. C'est à vous, Maxime. Donc, vous êtes aussi parmi ces adolescents aujourd'hui, élève en classe de 3e. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous aussi dans votre expérience et votre, au fond, est-ce qu'on peut parler de rencontre avec Jésus ou d'une révélation particulière, Maxime ?
Oui, tout à fait. Déjà, j'étais baptisée très jeune, à 6 mois. Et après ce baptême, j'y croyais pas plus en ça qu'à Dieu. Et j'ai eu un déclic. C'était pendant le baptême et la première communion de mon cousin. Et ce déclic, il m'a fait voir que je voulais voir, que je voulais découvrir Jésus. Je voulais découvrir Jésus. Et c'est pour cela que j'ai fait l'aumônerie. Et c'est ma première année d'aumônerie.
Avec ce grand désir. Et alors, comment s'est passée cette première année d'aumônerie pour vous, Maxime? Vous avez vraiment rencontré, découvert Jésus? Ça a été la grande révélation? Vous en êtes où aujourd'hui?
Je l'ai un peu découvert, mais son histoire, elle est tellement belle et grande que c'est très dur de le découvrir. Mais j'y commence.
Vous avez commencé le chemin?
J'ai commencé
le chemin.
Vous avez
commencé le chemin, ce n'est que le début.
C'est que le début.
Ah, oui. Aliénor, et pour vous, dans votre histoire, après le témoignage de Pauline, de Gabriel, de Victor, quel est le vôtre? Alors, je rappelle que vous êtes aussi une collégienne en classe de quatrième. Voilà, et donc je vous laisse la parole et merci.
Merci. Moi, j'ai été baptisée à 2 semaines. Dans ma famille, on était catholiques, enfin... Pour moi, je voyais plus les sacrements comme des fêtes où on se retrouvait entre amis. Et puis, j'ai reçu la confirmation. Et c'est à ce moment-là que je me suis demandé si les sacrements étaient seulement des moments de se retrouver en famille et pas un moment où on recevait vraiment des grâces de Dieu. Et à partir de ce déclic, j'ai commencé à me poser des questions sur vraiment pourquoi j'étais chrétienne et pourquoi je croyais en Dieu. Et aux vacances de la Toussaint, après ma confirmation en mai, j'ai une amie qui m'a proposé de venir à un camp d'aumônerie avec elle. Je me suis dit, pourquoi pas, ça va être un moment sympa entre copines, on va bien s'amuser. Et puis en fait, au troisième jour du camp d'aumônerie, je me suis rendu compte que c'était pas des vacances entre copines, c'était vraiment des vacances avec Jésus. Et c'était encore mieux. On priait tous les jours et... on était dans un chalet très simple, c'était très agréable, on était tous ensemble et on était vraiment avec Jésus. Tous les matins, on se réveillait, on priait avec Jésus et tous les soirs, on se couchait avec Jésus et c'était fantastique. Et je me suis vraiment rendu compte que Jésus était là et qu'il n'était pas là pour nous faire plaisir, pour faire joli, qu'il était vraiment, vraiment vivant et qu'il était vraiment avec nous et qu'il venait nous voir tous un par un et qu'il nous aimait profondément.
Vous en parlez avec beaucoup, beaucoup d'émotions. Ça a été un moment pour vous de révélation, de rencontre, mais est-ce que cette rencontre avec Jésus a été un lieu de visitation, un lieu de consolation pour vous?
Oui, parce que j'ai eu des différends avec beaucoup d'amis au collège et je me suis rendu compte que c'était pas grave, que j'avais toujours Jésus avec moi et que j'avais toujours un ami avec moi. Que même si mes copines avaient décidé de faire des histoires, que Jésus était avec moi et que j'avais le meilleur ami du monde.
La vie au collège est dure parfois.
Pas un peu.
La vie de collégienne.
Oui, parce que on traverse tous des épreuves difficiles et en général, ça ressort facilement au collège parce qu'il n'y a pas nos parents, il n'y a pas notre famille et que c'est beaucoup plus facile de s'acharner sur des gens qu'on ne connaît pas que sur des gens qui font partie de notre famille et que du coup, c'était facile pour elle de se lâcher. Sur certaines personnes. Je ne l'ai pas forcément bien vécu, mais ça m'a permis de me rendre compte que Jésus m'aimait énormément.
Merci infiniment. On peut dire que je vous avais donné comme directive à chacun d'être le plus vrai possible pour cette prise de parole, cette prise aussi de témoignage pour la première fois. Donc, merci infiniment. Je vais vous proposer là d'écouter un peu de musique. Hein, voilà, le temps aussi de se reprendre. Hein, voilà, et de partir du côté d'Assise et de Rome. Un pèlerinage que vous avez fait récemment et vous êtes arrivé à Rome le 21 avril. Et c'était le jour aussi de la date de la mort du pape François. Voilà, donc vous avez plein de choses aussi à partager sur notre antenne et dans cette émission. À tout de suite.
Un beau matin, je sais que je m'éveillerai différemment de tous les autres jours. Et mon cœur délivré enfin de notre amour. Et pourtant, sans un remords, sans un regret, je partirai. Droit devant moi, sans espoir de retour. Loin des yeux, loin du cœur, j'oublierai pour toujours. Et ton corps et tes bras et ta voix, mon amour. Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, j'arracherai sans une larme, sans un cri, les liens secrets qui déchirent ma peau, me libérant de toi pour trouver le repos. Et pourtant, et pourtant, je marcherai vers d'autres cieux, d'autres pays, en oubliant ta cruelle froideur. Les mains pleines d'amour, j'offrirai au bonheur, et les jours, et les nuits, et la vie de mon cœur. Et pourtant, c'est mes élans de joie que je parte à jamais pour échapper à toi. Et pourtant, dans d'autres bras, quand j'oublierai jusqu'à ton nom, quand je pourrai repenser l'avenir, tu deviendras pour moi qu'un lointain souvenir, quand mon mal et ma peur et mes pleurs vont finir. Et pourtant,
Église, Nathalie Cardon.
De retour dans ce Vivante Église en plateau, ce sont des adolescents que vous découvrez depuis le début de cette émission, entourés d'Evelyne Delaverne, responsable de ces adolescents pour ce diocèse de Toulouse. Et c'est une mission qui vous est confiée depuis 7 ans, donc vous les connaissez bien. C'est vous qui les avez pour aujourd'hui, pour cette mission radiophonique choisie. Je vais me tourner, donc, et on va voyager. Voilà, on va partir presque en pèlerinage, un peu en retard, mais on va vous retrouver à Rome et à Assise, puisque vous avez vécu un pèlerinage du 26 avril, du 21 avril. Au 26 avril, sur les pas donc de Saint-Pierre, de Saint-Paul. Je me tourne vers vous, Victor. Ça a été un pèlerinage un peu inattendu pour vous et vous avez une anecdote et puis une belle histoire. Hein. Racontez-nous.
Effectivement, parce que moi, mon pèlerinage ne devait pas se passer comme cela. Je devais partir avec mon lycée pour la canonisation de Carlo Acutis. Mais malheureusement, ça n'a pas pu se passer car je m'étais inscrit trop tard. Et par deux contacts, j'ai pu aller à un pèlerinage avec ce groupe-là. Et donc, le jour où nous allons partir, ma mère est venue me voir et me dit « Victor, le pape est mort ». Et je lui dis « Comment ça ?» Et deux heures après, nous sommes partis pour Rome. Et ça a commencé donc tout un périple de foi et de nombreuses découvertes, parce que moi, Rome, je connaissais Rome sous son aspect culturel, à travers souvent des clichés, mais pas du tout sous la foi et sous ses côtés spirituels, parce que durant ce pèlerinage, nous avons eu la chance de fêter des fêtes, nous avons fêté
Vous avez eu célébré des fêtes.
Célébré voilà. Des fêtes, oui. Et prié dans de nombreuses basiliques, comme par exemple celle qui m'a particulièrement touchée à Saint-Paul, qui a été une basilique magnifique et avec un fort symbolique. Donc c'était un moment et une semaine magique.
Alors, et pour vous, Gabriel aussi, ça a été aussi un moment important aussi, un moment peut-être où l'Église fait corps. Racontez-nous.
Rome et Assise, c'est des endroits très impressionnants. D'abord, Rome, où on a l'impression que les églises, elles sont partout. Et puis, ce pèlerinage jubilaire, il a été rendu particulièrement inoubliable grâce aux trois prêtres qu'on avait. Le père Christian, le père Résus et le père Simonet. Trois prêtres super, plein d'énergie et pour assises. On a eu beaucoup de chance, on a pu voir bienheureux Carlo Acutis. Sa momie, c'est très impressionnant, on a l'impression qu'il va se réveiller. C'est incroyable. Et puis Sainte-Claire, du coup, qui connaissait très bien Saint-François d'Assise.
Merci Gabriel, Pauline. Ce pèlerinage sur les pas aussi d'un Saint-Pierre, d'un Saint-Paul, d'une Sainte-Claire, d'un Saint-François d'Assise, et puis Assise aussi d'un bienheureux, Carlo Acutis, qui devait être canonisé, mais reporté suite au décès du pape François. Alors ce pèlerinage pour vous, un écho ?
Oui, voilà, tout à fait. Alors, on n'a pas eu la chance d'avoir la canonisation de Carlo Acutis. Cependant, donc, mes camarades en parleront sans doute en détail, mais on a eu la chance de voir le pape François, donc son cadavre.
Pardon. Sa dépouille. Sa dépouille. Oh, oui, enfin.
C'est un moment très fort.
un moment rempli d'émotions.
Exactement.
Ouais.
Mais voilà,
et puis un moment un peu inattendu, parce que je rappelle que vous êtes parti le 21 avril, le jour de la mort aussi du pape François. Oui. Donc ça a été un moment aussi de recueillement. Et je vais me tourner vers Evelyne de Lavergne. Vous pouvez peut-être prendre la suite. Ce moment autour du bienheureux Carlo Acutis à Assise.
À Assise, oui. Voilà, on est rentré donc dans l'église où du coup il est exposé maintenant de façon permanente et on a pu se recueillir auprès de sa dépouille en fait. Et c'est assez étonnant parce qu'il est jeune. Hein.
Il est jeune, il a l'âge de
voilà, il
de
avait 15
garçons,
ans lorsqu'il est décédé. Et puis on le voit en jean et en tennis, voilà. Il est là, en fait, on se sent vraiment très ému.
Ah, oui, ce bienheureux vous parle, oui. J'imagine, à vous tous ici présents, et puis garçon peut-être, ce bienheureux-là. C'est un appel aussi à la sainteté pour tous ces jeunes chrétiens, ces jeunes adolescents. Victor ?
Effectivement, parce que voir un futur saint exposé avec qui avait mon âge, c'était très touchant de le voir dans un si bon état après toutes ces années. C'était un moment très très fort de ce pèlerinage, effectivement, parce que Assise, c'est le Lourdes d'Italie, mais c'était excellent. En fait,
est-ce que c'est un réveil aussi pour vous de cette génération et un appel à répondre à la sainteté, devenez des saints? Est-ce que ça vous éveille un peu ce désir de sainteté, chacun ?
Bien sûr, parce que le message de Carlo Acutis était de parler de Jésus à travers Internet, à travers ce que représente notre génération, qui est un peu Internet, le web, et même si les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc le partage de cette foi était très important pour Carlo Acutis.
Pardon, oui, je voulais parler un peu de Carlo Acutis aussi parce que je pense que c'est une figure aussi très importante, donc de l'Eucharistie, dont Gabriel a un peu parlé. Et en fait, je pense que la jeunesse aujourd'hui, avec le sacrement de communion, bien sûr, parfois a peut-être du mal à sonder un peu cet aspect de l'Eucharistie, de la présence de Jésus dans l'hostie. Je pense que Carlo Acutis, c'est un bon moyen pour les jeunes de réaliser en fait cette importance et cet aspect-là de la religion.
Moi, j'ai trouvé ça très émouvant, pareil, de le voir comme s'il était endormi et que je me suis dit, mais en fait, il est saint et il est comme s'il était, enfin, il était comme nous et il est quand même réussi à être saint. Donc, ça veut dire que nous aussi, on peut être saint et qu'on peut évangéliser et dire à tout le monde que Jésus les aime et que la vie est belle et que si Carlo Acutis va bientôt être saint. Nous aussi, on peut l'être et que c'est pas très difficile.
Et pour vous, Maxime et Philippine, le bienheureux Carlo Acutis, qui va très prochainement être canonisé.
Carlo Acutis, on le surnomme déjà le saint patron des geeks, ce qui représente beaucoup parce que il va être devenu saint par son site web qui parle des miracles eucharistiques. Et ce que j'ai trouvé très fort, c'était de le voir et quasiment endormi, et aussi de voir son cœur, car le cœur, ça représente l'amour.
Oui, moi j'ai trouvé que ça m'a beaucoup ému de le voir, parce qu'on avait vraiment l'impression qu'il allait se réveiller tout d'un coup et qu'il n'était pas vraiment mort. Et je pense que c'est un très bon exemple pour nous, car il avait notre âge, enfin à peu près, et que on pourrait très bien devenir saint nous aussi, comme l'a dit Aliénor, comme lui.
Alors, on quitte le bienheureux Carlo Acutis et Assise pour revenir du côté de Rome. Et vous avez, vous, été, Aliénor, aussi marqué par les catacombes. Dites-nous tout.
Effectivement, on a visité les catacombes le troisième jour. Et on a vu, du coup, l'endroit où les premiers chrétiens enterraient leurs morts. C'était vraiment impressionnant parce que c'est tout sous terre et c'est vraiment très grand. Notre guide était vraiment très très drôle et nous a vraiment tout expliqué. C'était très agréable. On a vu toutes les traces que les premiers chrétiens avaient laissées et puis on vu leur foi inébranlable en Dieu.
Mais aussi, on a parlé des chrétiens persécutés, qui est un sujet très fort et très très fort de ce pèlerinage, qui a été un sujet abordé sans gêne et avec surtout plein d'admiration pour ces chrétiens-là qui sont morts pour leur foi. Donc ces catacombes ont pu nous poser certaines questions par rapport à ce qui s'est passé avant et qui se passe toujours, même si c'est moins.
Donc il y a la question aussi que vous évoquez sur ces lieux, la question aussi du don et puis du martyr, hein, aller jusqu'au bout pour sa foi. Pauline ?
Oui, moi je voulais un peu parler justement des grandes basiliques qu'on a vues, donc Léo Martyr et donc notamment donc on a vu la basilique Saint-Jean de Latran, donc c'était notre première visite et donc personnellement j'ai été émue aux larmes en fait devant la beauté du site, devant la portée en fait de tous ces saints qui ont marqué l'histoire, parce que dans la basilique Saint-Jean de Latran on peut voir donc l'allée des saints avec donc de nombreuses représentations en statues. C'était simplement merveilleux. Donc je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui nous accompagnaient à Rome, qui étaient très sensibles, qui avaient une certaine sensibilité artistique, qui avaient cette émotion-là. Et je pense que la foi chrétienne a cette chance aussi d'avoir de la beauté aussi dans ses églises, dans son histoire, dans sa culture et dans son architecture. Donc c'était très impressionnant. Et j'aimerais aussi notamment parler de la basilique Saint-Paul. Donc Saint Paul, en fait, ça m'a beaucoup marqué parce que c'est un saint, donc Saint Paulus, ça veut dire petit et faible. Et en fait, la basilique de Saint Paul, déjà Saint Paul, c'est le symbole de la conversion, donc du changement, du renouveau. Et donc en cette année jubilaire où on a eu tant de baptêmes, tant de partages au niveau des témoignages, des conversions, des changements. Je pense que c'était un symbole très fort pour nous. Donc, on a eu cette chance-là d'assister aux messes dans les basiliques. Mais alors, c'était très, très fort. Vraiment.
Donc, on entend l'importance aussi de la beauté de ces lieux, voilà, des lieux saints, qui renvoient à la beauté aussi de Dieu, la beauté du Créateur. Ces temps de pèlerinage, au fond, quand on vous écoute, on entend parler de ce pèlerinage vécu en Italie. On entendait aussi Gabriel avec Notre-Dame du Lot. Vous avez vécu aussi une révélation, hein, et puis un retour. Au fond, ces lieux de pèlerinage sont importants. Il a été important pour vous puisqu'il a donné lieu aussi à faire cette démarche de confirmation. Et aujourd'hui, vous allez à la messe, on imagine, vous êtes scout, on n'a pas tout dit, on n'a pas donné toutes les informations de chacun, mais vous avez choisi, tout comme Maxime et vos camarades, vous avez vraiment choisi Jésus dans votre vie et dans votre cœur, Gabriel.
C'est vrai que quand on va à Notre-Dame-du-Lot, par exemple, on se rend compte que ce lieu, il a été important pour beaucoup de chrétiens. Et beaucoup se sont convertis grâce à ce lieu. Et je souhaite vraiment à tous les auditeurs d'aller à Notre-Dame-du-Lot. C'est un endroit très magnifique et il y a eu de multiples apparitions de la Vierge Marie.
Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Ça va bientôt être la fin de cette émission dans quelques minutes. Vous tous ici présents, adolescents, écoutés par des parents sur notre antenne radio et certainement aussi de nombreux grands-parents, peut-être des personnes malades qui vous écoutent en ce moment, des personnes qui sont peut-être éprouvées et découragées. Vous, témoin aujourd'hui de l'espérance, en ce jubilé de l'espérance, quelle espérance pouvez-vous porter sur les ondes pour tous ceux et toutes celles qui vous écoutent? On sait que l'enjeu est grand aussi pour votre génération. Voilà, les épreuves sont là aussi. Qu'aimeriez-vous partager, Pauline?
Moi, je pense que la chose la plus importante à retenir dans cette année jubilaire, pour les parents, pour les grands-parents, pour ceux qui s'inquiètent de l'avenir peut-être de la chrétienté, c'est vraiment de faire confiance à la voix et à la foi des jeunes chrétiens. Parce qu'elle est, je pense qu'elle revient en force, on le voit avec les 7000 baptisés. Vraiment, l'espérance est là, elle est visible. Et il faut avoir foi dans ces témoignages.
Alors j'ai presque envie de vous interroger, je ne vais pas faire une intrusion aussi dans vos parcours et vos cheminements personnels, mais on parle de foi, on parle de sainteté, on parle d'un bienheureux Carlo Acutis qui vous a marqué à chacun. Voilà. Est-ce que vous vous interrogez aussi sur la question de la vocation? Vous êtes libre ou non de répondre, Pauline.
La vocation, c'est quelque chose de très fort, dont, je l'avoue, j'ai sérieusement pensé, auquel j'ai pensé, parce que je pense que quand on est jeune, qu'on réalise l'amour du Christ, cet amour mais qui remplit une vie, qui remplit une paix immense, énorme. Je pense que la vocation, on peut en parler pendant des heures, mais c'est quelque chose qui s'imagine, qui se pense. C'est comme, voilà.
Moi, je pense que la vocation, c'est personnel à chacun, que on ne peut pas deviner sa vocation, qu'il faut juste attendre que Dieu nous en informe et qu'on suive après.
La vocation, il faut prendre beaucoup de temps pour y réfléchir, c'est toute une vie. Et puis, comme on l'a vu pendant le pèlerinage, avec les trois prêtres qui nous ont accompagnés, ça pourra peut-être influencer, montrer la voie à certaines personnes.
Mais également, c'est un choix personnel qui repose sur les choix de chacun.
Je pense aussi qu'il y a différentes formes de vocation, peut-être. Formes dans le sens où on peut avoir la vocation donc religieuse, qui est quelque chose donc de très sérieux et qui se réfléchit donc au long terme, comme l'ont dit mes camarades. Puis il y a d'autres formes de vocation. Le mariage est une vocation en soi. Et je pense que c'est celle qui est suggérée par beaucoup de jeunes, au plus jeune âge en tout cas, et c'est aussi une belle chose.
Moi, je pense que pour la vocation, il faut bien prendre le temps de réfléchir. Il ne faut pas essayer de brusquer les choses, il faut attendre l'appel de Dieu. Et voilà.
Et je vais demander à Evelyne Delavergne, vous avez été du début à la fin présente auprès de ces jeunes adolescents que vous avez accompagnés en 7 ans presque de service, puis d'expérience, puisque vous les rencontrez, vous les côtoyez, vous organisez aussi ces pèlerinages. C'est toute une école, c'est tout un enseignement. Vous avez certainement beaucoup reçu. Qu'avez-vous reçu de ces nombreux adolescents jusqu'à aujourd'hui? Un bilan en cette année du jubilé de l'espérance.
Alors, la principale préoccupation de la pastorale des adolescents, c'est vraiment d'aider les adolescents à être autonomes dans leur foi et d'être en fait évangélisateurs. C'est eux qui sont le mieux à même de parler à d'autres adolescents. Donc, c'est vraiment de les rendre acteurs de leur foi et de qu'ils puissent porter leur propre témoignage aux autres adolescents. C'est notre mission.
Vous sentez tous appelés à devenir ces missionnaires d'aujourd'hui et de demain pour vos camarades, ceux que vous côtoyez. Victor ?
Je pense que forcément, en étant chrétien catholique, il faut en parler, il faut répandre cette bonne nouvelle. Et de toute façon, je pense que c'est logique d'en parler autour de nous.
Donc il ne faut pas avoir peur.
Il ne faut pas avoir peur.
Il ne faut pas rougir.
N'ayez pas peur d'en parler.
N'ayez pas peur. Pauline.
Et justement, on parlait des martyrs et des chrétiens persécutés. Je pense qu'on a la chance aussi d'être dans une nation, dans un diocèse qui nous permet en fait de parler, de partager. C'est un amour qui est tellement puissant. En fait, c'est comme ne pas partager quelque chose de fort qu'on peut partager gratuitement. Et c'est beau.
Moi, je me dis que si on ne dit pas, si on propage pas que le Christ est ressuscité, personne ne le saura si on ne le fait pas à notre place. Enfin, on ne peut pas laisser les autres le faire. Il faut qu'on le fasse nous aussi pour que tout le monde puisse le savoir et que tout le monde puisse aller au ciel et qu'on se retrouve tous là-bas.
Qu'on puisse tous aller au ciel, hein, parce qu'au fond, c'est un bon résumé. Qu'en pensez-vous, Pauline, Gabriel et Victor, hein, parce que l'évangélisation, le souci de l'évangélisation, le souci d'annoncer la bonne nouvelle peut-être à vos camarades, c'est le souci qu'ils soient sauvés. Donc, c'est la question du salut, c'est la question du ciel, c'est la direction du ciel. C'est un vrai programme.
Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a de nombreux... J'ai entendu, je ne sais plus d'où, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup parlé. C'est l'image donc, de deux amis qui se voient marcher tout au long d'un chemin. Et puis, il y en a un qui tombe, en fait, dans une sorte de fosse. Et donc, en fait, la foi, c'est avoir ce pouvoir-là de donner une corde, de donner une échelle, de tendre la main. Et ne pas le faire, en fait, c'est se rendre, disons, responsable. En fait, l'évangélisation, c'est une responsabilité qu'on prend, et c'est bien de le prendre à l'adolescence, et c'est important. Et oui, on a tous envie de se retrouver au ciel.
Gabriel, ou Victor, hein, si vous voulez un petit peu, et puis Maxime, réagir dans ces 3-4 dernières minutes.
Hein. Bah, rien qu'en participant à cette émission, on évangélise. Mais c'est vrai que, comme l'a dit le nouveau pape Léon XIV, c'est de nos jours, c'est très difficile d'évangéliser. Et donc, j'aimerais dire à tous les auditeurs qui ont peut-être notre âge qu'il faut oser. Et comme l'a dit Pauline, c'est une responsabilité.
Maxime.
Oui, tout à fait. C'est...
Vous vouliez dire
Je voulais dire que on a tous envie d'aller au paradis, mais il faut surtout ne pas avoir peur de la mort. Car après la mort, on a la vie éternelle.
Oui, Victor, oui, moi j'ai vécu donc tout ce qui est la mort, mais pour moi
la mort de votre papa,
mort,
voilà,
de mon papa, oui. Effectivement, mais pour moi la mort n'existe pas, la vie continue et c'est une vie éternelle remplie de bonheur et de joie. Donc c'est pour ça que la mort pour moi n'est pas un sujet forcément abordé et n'est pas une question. Ça va arriver, mais ce n'est pas une question, ce n'est pas triste d'en parler. C'est la vie va continuer.
Quand vous les entendez, Evelyne, ils vous édifient, ces adolescents.
Ah,
moi, ils me surprennent.
Je suis fière
c'est
de
un vrai cadeau hein, que vous
merci,
me faites aujourd'hui.
Merci de tout ce que vous avez partagé, parce que je crois que vraiment tous les adolescents qui vont écouter cette émission, vos témoignages sont inspirants. Merci.
Il y avait aussi la question aussi de ces trois prêtres hein, qui ont été importants pendant votre pèlerinage en Italie. Vous pouvez peut-être les saluer, hein, puisque ces trois prêtres qui vous ont accompagné du 21 au 26 avril, pendant cette période qui était une période particulière en Italie, c'était l'effervescence autour du décès du pape François. Ces trois prêtres vous ont marqué, si vous voulez leur laisser un message chacun de remerciement, peut-être d'encouragement pour tous les prêtres, car la mission est importante. Et parfois, les ouvriers sont peu nombreux et nos prêtres ont besoin d'être soutenus et encouragés. Un mot pour chacun. Ils vous écoutent aujourd'hui et maintenant, certainement. Gabriel ?
Pour le Père Christian, j'aimerais lui dire merci pour toutes les activités qu'il fait. Il a créé une aumônerie, un club de foot pour la paroisse. Il court des marathons. Il est vraiment incroyable, ce prêtre. Pareil pour... le Père Jésus, qui a des charismes pour s'occuper des enfants, c'est très impressionnant. Et puis le Père Simonet, qui sait écouter les gens, et qui est très calme, et c'est impressionnant.
Alors moi, je vais vous proposer à tous, peut-être, hein, je vais vous inviter avec vos prêtres, hein, voilà, et on fera peut-être, je l'espère, dans cette mission future, rencontre prêtres et adolescents. Et pourquoi pas, l'année du jubilé se termine en décembre prochain. D'ici là, on se retrouve. Hein, l'invitation est lancée. Je vous remercie à chacun, et je vous souhaite bien de poursuivre donc cette évangélisation auprès des camarades que vous rencontrez. Merci Evelyne de Lavergne et merci à vous Maxime, Philippine, Aliénor, Pauline, Gabriel et Victor. Au revoir à tous.
Au revoir, merci.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.